Au sortir de la période de confinement vécue du 15 mars au 2 juin, Radio Ondaine vous propose aujourd'hui une rencontre avec Christophe Martina, directeur de l'hôpital Le Corbusier de Firminy, et François Ballereau, président de la commission médicale de l'établissement et chef du service des urgences. Il nous propose aujourd'hui une analyse de la situation actuelle, les protocoles mis en œuvre et un bilan de cette période inédite.
Alors, c'est vrai que sur le début de l'année, on était sur une phase épidémique, classique, habituelle hivernale, on va dire. Donc les mesures de précaution étaient déjà en place et on a vécu, on a mis un cran supplémentaire dans nos organisations lorsque les premières mesures de confinement ont été annoncées. L'établissement a été contraint de réorganiser tous ses services et toutes ses activités et ses circuits. On nous a demandé tout d'abord de déprogrammer toutes les activités qui étaient non urgentes, hein, toutes les activités chirurgicales qui pouvaient se reporter, toutes les activités médicales qui pouvaient être reportées, de façon à pouvoir libérer le plus de lits possible d'hospitalisation. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, nous avons en interne décliné cette injonction de l'ARS et demande des autorités sanitaires en regroupant le plus possible de services de façon à pouvoir libérer le plus de capacités possible. Et au début mars, juste au moment où ces mesures de confinement ont été annoncées et ont commencé à voir arriver l'épidémie, nous avions deux services complets qui avaient été complètement libérés et qui étaient prêts à accueillir des patients Covid. Donc ça voulait dire à peu près plus d'une soixantaine de 60-65 lits d'hospitalisation complète sur ces secteurs-là. Parallèlement, l'organisation de l'entrée à l'hôpital a été modifiée puisque nous avons mis des dispositifs d'accueil et de pré-tri à l'entrée des bâtiments de façon à pouvoir faire une première évaluation médicale soignante pour se renseigner sur le statut du patient. Et dès que ce statut était clarifié, deux circuits étaient mis en place dans l'établissement, soit un patient Covid confirmé avec un circuit déterminé propre pour rejoindre les services Covid, soit alors un patient non Covid et qui prenait un autre circuit pour aller rejoindre les unités d'hospitalisation classiques. D'accord. Voilà en quelques mots les organisations que nous avons mis en place.
Sur les deux mois de confinement, on va dire, et puis sur cette période un peu plus longue, quel a été finalement le taux d'occupation de ces lits mis en place et de ces services mis en place?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'ensemble de la période de confinement, l'établissement a pris en charge plus de 200 patients Covid confirmés. Donc, avec effectivement des variations d'une semaine à l'autre en fonction de là où on se situait durant la phase épidémique. Au pic de la phase, c'est-à-dire les deux, trois semaines qui ont suivi les mesures de confinement, nous avions environ 35 patients de Covid confirmés sur l'établissement, c'est-à-dire un service complètement rempli de patients atteints de cette pathologie-là.
Au niveau de la gestion des urgences, donc docteur Ballereau, comment se sont formées les équipes? Est-ce qu'il y a eu des protocoles particuliers? Mais vous, au sein de l'organisation du service, comment vous avez vécu cette période-là? Et puis comment vous la vivez maintenant? On entend les médias nous disant c'est terminé, etc. Vous êtes dans quelle situation actuellement par rapport aux trois derniers mois?
Alors, de manière chronologique, on a eu la chance par rapport à d'autres régions, notamment le Grand Est, d'être prévenus au préalable de cette vague qui allait arriver. Donc, ça nous a permis de nous organiser au préalable et ça, c'est plutôt un point positif. Très rapidement, on a retravaillé complètement nos organisations en créant deux flux distincts, comme on le disait tout à l'heure, à l'accueil des patients, avec un pré-tri extra-hospitalier, enfin, qu'on faisait avant l'admission aux urgences pour essayer d'identifier les patients qui étaient porteurs suspect ou non, et de ne pas du tout croiser les flux au sein du service des urgences, que ce soit pour de la consultation externe ou de la prise en charge un peu plus lourde en hospitalisation par le service des urgences. On a eu cette montée en charge progressive, donc très vite on a vu deux flux se croiser, hein, beaucoup de patients suspects initialement, et par contre très très peu d'activités dites classiques, hein, mais ça c'est pas propre à l'établissement de Firminy, on a vu ça dans l'ensemble du pays, où les consultations ont baissé pour les pathologies plus traditionnelles. Aujourd'hui, l'activité a bat son plein, on a repris une activité tout à fait traditionnelle avec des taux d'activité qui sont proches de la normale. Donc les gens reviennent nous voir et continuent de nous faire confiance, donc ça c'est une bonne chose. Concernant le Covid, bah, on est tous dans cette expectative de suspecter une probabilité d'une seconde vague. Il semblerait que pour l'instant les marqueurs soient plutôt favorables à ce que ce ne soit pas dans l'immédiat, mais il faut savoir être prudent. Le brassage de population est en train de se refaire doucement, les restaurants viennent de réouvrir, les gens vont ressortir. Donc on ne peut pas affirmer avec certitude si cette deuxième vague va avoir lieu et si c'est le cas, quand. En tout cas, on reste prudent et même si peu progressivement on remet en place nos flux traditionnels, on se garde la capacité de faire machine arrière très rapidement et on garde toujours identifié au sein du service d'urgence, mais comme dans l'hôpital, des secteurs dédiés, des lits dédiés pour que l'on puisse accueillir des patients porteurs en sécurité pour les patients et pour les autres usagers.
Alors, vous faisiez référence à ce qui s'est passé dans le Grand Est. Est-ce que ça, c'est un peu, pour avoir cette image-là, une épée de Damoclès au-dessus de vous, en vous disant qu'est-ce qui va se passer demain? Ou est-ce que finalement, les informations que vous aviez, les analyses que vous pouvez faire par rapport aux patients entrants, vous aviez quand même une vision peut-être un peu plus, déjà spécialisée, c'est sûr, c'est votre spécialité, mais plus large par rapport à ce que la population pouvait avoir?
Alors oui, les voies de communication internes propres à notre cœur de métier ont bien œuvré. Hein. On a eu des échanges rapprochés avec les collègues qui ont été touchés en premier et qui nous ont fait part de leur retour d'expérience, je dirais, au fil de l'eau, hein, en continu, ce qui a permis aux autres établissements français de s'organiser. C'est toute la difficulté d'être confronté à une situation nouvelle. Hein. On n'avait jamais vu, on était prêts et nous sommes tout le temps préparés, surtout ces dernières années, ces derniers mois, à des situations de sanitaires, mais de type exceptionnel liés aux attentats, par exemple. On ne s'était pas encore mis en condition de transformer l'hôpital comme on l'a fait pendant plusieurs semaines afin de tenir dans la durée des organisations qui n'étaient pas connues. Mais oui, on a eu cette chance folle cette intelligence d'être en communication permanente et puis maintenant les moyens de communication nous permettent d'avoir ça au sein de nos exercices et on a suivi en direct ce qui se passait dans les premières régions les plus touchées, donc le Grand Est en France, et leur retour d'expérience a été extrêmement favorable à nos organisations.
Si je peux me permettre, pour compléter les propos de François, à aucun moment l'établissement n'a été débordé par la prise en charge des patients, même nombreux, qui arrivaient chez nous pour le Covid. Pour deux raisons. D'abord, c'est que cette crise, on l'a gérée de façon territoriale, en concertation avec les autres structures du département, le CHU Saint-Étienne, Annonay, enfin tous les établissements de notre environnement, de notre GHT. Donc, il y avait une grande concertation et une grande, on va dire, coopération entre les établissements. Et le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup appris de ce qui s'est passé dans le Grand Est, notamment sur des coopérations publiques-privées. Et là, pour le coup, tous les acteurs du territoire, aussi bien les cliniques privées que les établissements publics, se sont mis tous autour d'une table pour essayer d'organiser au mieux une offre de soins la plus vaste et la plus large possible. Donc ça, ce sont des éléments qui n'ont pas pu se mettre en place à temps dans le Grand Est, alors que nous, on a pu les organiser, si vous voulez, sur le département. Donc, les structures n'ont pas été débordées. C'est vrai que les taux d'occupation à la charge a été importante, mais à aucun moment on a été au point de rupture.
Alors, sur l'hôpital Le Corbusier de Firminy, concernant le public des personnes âgées, notamment l'USLD, comment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de résidents à l'USLD, personnes âgées, fragiles. Je crois savoir qu'il n'y a pas eu de cas avérés, finalement.
Alors, c'est vrai que c'était, je laisserai François compléter, c'était un point de vigilance tout particulier sur le secteur des personnes âgées sur l'établissement, parce que c'était un secteur important. On a plus de 150 résidents sur le site. Et nous avions pris des mesures très tôt de confinement, d'isolement, d'interdiction de visite, bien avant que les mesures de confinement soient annoncées. Du coup, cet isolement et ces mesures de précaution qui ont été mises en place nous ont conduit à n'avoir aucun cas de Covid confirmé sur notre USLD. Donc ça, c'est plutôt une grande satisfaction. Ça veut dire que les mesures qui ont été prises étaient plutôt adaptées. Je voudrais juste vous dire un petit peu, vous donner un petit peu le profil des patients qu'on a accueillis Covid sur l'établissement. La moyenne d'âge, elle est de 69 ans des patients qui ont été accueillis sur ces 200 patients qu'on a pris en charge. 69 ans, majoritairement des hommes, 55% étaient des hommes, 45% étaient des femmes, avec une origine géographique qui était très marquée vallée de l'Ondaine. Or, habituellement, notre établissement recrute un peu sur la Haute-Loire, à hauteur de 45% là également, mais là, la très grande majorité, à 80%, c'était des patients de la vallée de l'Ondaine, et le nombre de patients était proportionnel à l'état de la population de la commune d'appartenance, si vous voulez. Ces patients, lorsqu'ils étaient admis dans l'établissement, ils étaient admis soit sur des services de médecine, la durée moyenne est à peu près de 8 jours, à l'issue, soit c'était un retour à domicile, soit c'était une hospitalisation dans des services de soins de suite et de réadaptation, et là, c'était à nouveau pour un séjour, on va dire, un peu moins de 3 semaines. Donc, voilà la structuration. Ça a été aussi l'occasion pour nous de tester des mesures et des organisations un peu nouvelles pour nous. On a mis beaucoup de télé-expertise, on a mis beaucoup de télémédecine en place. Et lorsque les patients Covid quittaient l'établissement, nous avions mis en place des applications pour assurer un suivi à domicile de ces patients avec des petites des outils d'application sur smartphone, avec un questionnaire et des sollicitations médicales très très régulières de la part de médecins vis-à-vis de ces patients. Voilà, François, si tu veux compléter peut-être sur le secteur des personnes âgées.
Bah, compléter, non, les choses sont bien dites, mais bien préciser qu'on a complètement conscience que ça a été une grande difficulté pour l'entourage familial de ces patients. On le partage et on le comprend, mais ces mesures-là ont prouvé leur efficacité dans le sens que vous l'avez cité, où on n'a pas eu de cas avérés. Nos patients vont bien. Socialement, ça a été très compliqué. Depuis quelques semaines maintenant, on a remis en place une organisation pour que les proches puissent organiser quelques visites. On est en train d'améliorer ces conditions. On sait que ça a été un moment difficile pour les familles des résidents, mais on peut se féliciter que malgré tout, c'était un mal nécessaire qui a fait ses preuves.
Alors, si on reste sur les chiffres, y a-t-il eu des décès constatés à Firminy? Est-ce qu'il y a eu aussi des personnels soignants qui ont été infectés par la COVID-19?
Alors oui, on a fait plus de 200 tests PCR sur des professionnels et nous avons eu 12 professionnels Covid positif. Donc, c'est assez peu par rapport à l'effectif total de l'établissement qui est plus d'un millier d'agents. Donc, ça, c'est le premier point. Aucun cas grave de parmi nos personnels. Tous ont repris le travail. Et pour les décès, oui, nous avons malheureusement enregistré 9 décès Covid sur l'ensemble de la période pour l'établissement.
Alors maintenant, on est en phase 2 du déconfinement. La vie reprend, il suffit de sortir dans la rue pour s'apercevoir que des réflexes reviennent, ouverture des restaurants, des bars, les masques ne sont plus forcément portés, les gens se relâchent, je ne veux pas juger, mais entre guillemets, on voit moins ces gestes barrières appliqués. Qu'est-ce que vous mettez encore en place à l'hôpital pour que ces gestes soient respectés, l'accueil? Vous parliez tout à l'heure de la reprise des opérations qui ont été reportées, etc. Quel est le protocole actif à l'hôpital aujourd'hui?
Sur la partie accueil des consultants et des patients, donc il y a une évaluation qui est faite, c'est-à-dire qu'on cherche à mesurer le statut des patients avant leur hospitalisation. Lorsqu'il y a des situations avec des doutes, des PCR sont faites, c'est-à-dire des tests nasopharyngés, pour avant toute hospitalisation, avant toute intervention chirurgicale, de façon à pouvoir 24-48 heures avant connaître le statut infectiologique du patient. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour les visiteurs, les consultants qui viennent à l'établissement, outre ces mesures d'évaluation et des questionnaires médicaux qui sont faits avant la consultation, et il est mis un masque systématiquement aux patients et les mesures barrières qui sont mises en place, c'est-à-dire la distanciation, éviter trop de présence simultanée au niveau des espaces d'attente, et bien évidemment la mesure essentielle qui est le lavage des mains ou la friction des mains au gel hydroalcoolique, c'est systématique avant l'entrée dans nos services.
Pour faire le lien entre votre question et la réponse, c'est que oui, aujourd'hui la vie reprend son cours et on a l'impression que on a un taux de circulation virale qui est au plus bas et c'est tant mieux. C'est pas suffisant pour que nous à l'hôpital on baisse la garde, bien au contraire. On peut pas se permettre que des patients soient contaminés à nouveau. On peut pas se permettre de pas être vigilant. Ça, c'est notre métier, la santé. Donc, on se doit d'être exemplaire et nous maintiendrons encore ces procédures le temps nécessaire tant qu'on n'aura aucune certitude scientifique sur le besoin. Et puis, malgré tout, il y aura un avant et un après. Et on se doit d'être vigilant sur les risques de contamination à l'hôpital et à nous d'être exemplaires. Et nous continuerons en tout cas à être vigilants pour la santé et le bien-être des gens qui viennent nous voir.
Parlons de santé et de bien-être. Qu'en est-il du moral des personnels et des agents hospitaliers aujourd'hui? La fatigue, la pression, une pression qu'ils ont sûrement vécue, mais qui est difficilement imaginable quand on est un peu de l'extérieur. Comment ça s'est passé? Comment vous en parlez, si vous en parlez aujourd'hui entre vous?
On sent une fatigue qui a plusieurs raisons d'être. La première, ça a été... Comme vous le savez, comme tout le monde l'a ressenti, l'anxiété créée par cette maladie, hein, dont on ignorait tout il y a encore quelques mois. Donc forcément, ça génère l'angoisse, d'autant plus que les soignants étaient en première ligne. Deuxièmement, il y a aussi eu la préparation, c'est-à-dire que Grand Est a été touché quelques jours avant nous, ce qui nous a permis de nous organiser. Et il y a eu cette attente qui est très anxiogène. Troisièmement, on a complètement réorganisé l'hôpital. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien percevoir, mais... En quelques jours, on a complètement modifié toute l'organisation de l'hôpital, on a transféré des services, on a revu nos flux, on a revu nos procédures d'accès, on a réécrit toutes nos procédures de qualité. Voilà, ça a été énormément de travail. Et puis, il y a eu la gestion de cette crise. Donc, tout ça mis bout à bout, ça, c'était pendant la crise. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu la période de déconfinement. Bah, nous aussi, avant le déconfinement, il a fallu se réorganiser pour réaccueillir du personnel, repartir sur nos consultations, reprendre quelques activités chirurgicales. Et tout ça nécessitait beaucoup d'organisation. Donc, en plus de la charge de travail clinique classique et de prise en charge des malades, il y a eu toute l'organisation hospitalière. Les agents ont été changés d'unité de service, de prise en charge. Donc, voilà, c'est... Le mot aujourd'hui, je pense que c'est plus de la fatigue, mais une fatigue qui se comprend. Mais on est toujours vigilant parce que ça peut revenir.
Oui, pour compléter ce qu'a dit François, moi j'insisterai sur le fait qu'on a eu quand même des équipes paramédicales et soignantes qui ont été exemplaires. Toutes ont été là, toutes ont été présentes, toutes se sont mobilisées. Donc effectivement, maintenant, on est sur une phase un peu où la pression retombe, la fatigue est là, la pression retombe, la fatigue est là. Donc on a des angoisses qui reviennent, etc. Il y a des besoins de verbalisation d'un certain nombre de situations. On a mis en place un accompagnement psychologique pour les équipes qui le souhaitent, ce qu'on avait fait durant la crise et qui avait assez peu été utilisé par la crise, aussi bien en présence dans les services que sur des espaces de discussion ou de verbalisation en dehors des unités. Ces dispositifs sont toujours en place, mais très certainement, il va falloir qu'on aille au-delà avec d'autres choses à imaginer, à mettre en place. Alors, je sais pas, des espaces un peu de décompression, du yoga, des relaxations, enfin des choses comme ça, parce que je pense que les personnels en ont besoin.
Est-ce que est programmé un bilan de cette période-là? On n'est pas tout à fait sorti de cette épidémie. Quand est-ce que vous allez finalement regarder avec un peu de recul cette période? Si c'est faisable, est-ce que c'est programmé? Peut-être pas. Ou est-ce que vous en parlez déjà entre vous, en fait?
Alors, d'abord, cette crise, on l'a gérée de façon collective, puisqu'on avait une cellule de crise sur l'établissement avec les principaux acteurs, les chefs de pôle, un certain nombre de médecins, les cadres de santé, l'équipe de direction, pour gérer les dispositifs que nous activions. Donc oui, il est prévu de faire un débriefing comme pour chaque crise. Pour l'instant, la période de débriefing sera plutôt juste après l'été, parce que là, on est toujours un peu dans cette phase post-crise. L'été va arriver, donc il faut que chacun puisse aller souffler un peu sur l'extérieur, prendre quelques jours de congé. Donc, à la rentrée, il est prévu de faire un débriefing de tout ce qu'on a mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'il faut qu'on puisse réenvisager à l'avenir si, d'aventure, nous nous trouvions confrontés à une nouvelle phase de cette activation virale.
Du point de vue médical, au niveau des équipes, est-ce que c'est quelque chose qui vous est demandé aux services des urgences ou les équipes attendront le moment opportun pour faire part de ce qui... comment ils ont vécu la chose et puis faire leur propre bilan aussi.
Oui, on est dans la même logique, hein, c'est-à-dire qu'on a eu la préparation à la crise, la gestion de crise, là on est en gestion de sortie de crise, l'activité reprend son cours, on a encore la tête dans le guidon parce qu'on est toujours en train de se dire que ça risque de revenir et qu'il faut qu'on soit prêt. Je pense qu'on a un suivi d'activité de tout ce qu'on a fait depuis la crise, ça on l'a bien, mais la période de débriefing, le meilleur moment pour la faire, c'est quand même un peu à froid, quand on aura beaucoup de données et on est tous un peu axés sur on va gérer l'été et à sortie de l'été on fera ce temps de débriefing qui va être hospitalier général, hein, c'est-à-dire aussi bien médical que dans nos organisations, avec l'administration, avec l'ensemble des personnels. Je pense que tout le monde aura besoin aussi de pouvoir s'exprimer à ce sujet et on fera une grande messe de rentrée.
Bon. En tout cas, ce qu'il faut peut-être répéter, c'est que les personnes qui doivent se rendre à l'hôpital, et notamment l'hôpital Le Corbusier de Firminy, leur demander de respecter donc tous les protocoles un peu de distanciation physique, le lavage des mains, le masque, On n'a pas parlé de la maternité, mais je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire comprendre un peu à tout le monde. Voilà, c'est une période que l'on vit tous et qu'il faut finalement s'adapter aussi, comme vous êtes adapté.
Oui, ce qu'il faut surtout, c'est que les patients qui ont besoin de soins viennent sur l'établissement pour reprendre leur cursus et leur parcours de soins. On a, comme François le disait tout à l'heure, on a trop vu durant cette période des patients qui ont tardé à venir, qui ont renoncé à des soins. Et là, pour le coup, les situations sont très compliquées pour un certain nombre d'entre eux. Donc oui, vous pouvez venir à l'hôpital en toute confiance. Toutes les mesures de protection sont en place. Tous les outils de protection sont en place. Tous les circuits de sécurité sont en place. Donc oui, il n'y a pas de risque à venir consulter et se faire soigner à l'hôpital de Corbeil-Essonnes.